RCF.
Celui qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus dans l'évangile de Jean. Finalement, pour découvrir le Dieu des chrétiens et la foi chrétienne, on n'a rien fait de mieux que Jésus lui-même. Cette approche, c'est celle que vous proposez dans votre livre « Connaître Dieu à travers Jésus, une initiation au christianisme ». Michel Quesnel, bonjour.
Bonjour Véronique et bonjour aux auditeurs.
C'est un livre que vous publiez aux éditions Desclés de Brouwer. Vous êtes prêtre de l'oratoire, exégète et spécialiste du Nouveau Testament. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, les auditeurs de RCF vous connaissent bien. Et dans l'introduction de ce livre, vous rappelez qu'une de vos convictions profondes, c'est, dites-vous, la foi n'est pas d'abord un catalogue de vérités à croire, mais une relation, un attachement, un rapport avec un être que nous appelons Dieu. D'après vous, pourquoi est-ce qu'on a tendance encore aujourd'hui à associer le christianisme et en particulier le catholicisme à l'idée d'un catalogue d'idées à croire?
Je pense que ça tient en partie à la liturgie parce que finalement quand on récite le credo, c'est un catalogue de vérités. Et il me semble effectivement que ça n'intègre pas suffisamment la foi à la personne. Il me semble vraiment que la foi est de l'ordre de la relation entre la personne croyante et ce Dieu que j'ose appeler le Dieu inconnu, parce que finalement on ne le connaîtra jamais totalement, il est infiniment différent de nous et plus grand que nous. Et il me semble effectivement qu'il ne faut pas utiliser le mot « j'ai la foi ». Le verbe « avoir », on l'utilise quand on a une voiture, quand on a je sais pas quoi, des choses comme ça, ou un appartement.
Comment dites-vous alors ?
Je suis croyant. C'est de l'ordre de l'être, et c'est pas de l'ordre de l'avoir. Et on disait d'ailleurs quelquefois, de façon un peu bête, avoir la foi ou perdre la foi. Non, on est croyant et éventuellement on n'est plus croyant, mais c'est de l'ordre de l'être vraiment. C'est la relation avec Dieu a quelque chose de dynamique qui est bien plus fort que le fait d'avoir quelque chose.
Alors toujours dans l'introduction du livre, vous donnez un peu les raisons qui vous ont poussé à vous lancer dans l'écriture de cet ouvrage. Est-ce que vous voulez bien nous les rappeler ou nous les donner?
Ah oui, le livre ne le dit pas, mais je peux le dire ici. C'est une commande. C'est une commande des éditions des Clés de Brouwer, venant d'Antoine Bélier, qui a travaillé à RCF. Et Antoine est venu me trouver un jour en me disant il existait un livre très bien qui présentait le christianisme à des gens qui ne le connaissaient pas. Le livre de François Varillon, « Joie de croire, joie de vivre ». Je connais ce livre, mais il a plus de 40 ans. Et il m'a dit, il faudrait faire quelque chose maintenant qui soit tout à fait d'un autre ordre. Le même objectif, présenter le christianisme à des gens qui n'y connaissent rien, mais qui sont intéressés par le christianisme, mais alors de façon assez différente, en partant des évangiles, parce que finalement, c'est dans les rencontres que Jésus peut avoir avec d'autres humains que l'on peut découvrir qui est Dieu.
Alors, il s'est tourné vers vous, pas totalement par hasard, probablement, sachant que pour vous, vous venez de nous l'expliquer, ce qui est important, ce qui est central dans le christianisme, c'est la relation avec un Dieu qui est une personne, qui n'est pas qu'une idée, ni une philosophie de vie, ou un catalogue de choses à croire.
Tout à fait.
Et puis, la relation aussi entre les croyants et puis avec le monde, tout, oui. De manière plus générale.
Et dans mon livre, d'ailleurs, j'évite systématiquement, y compris dans le titre des chapitres, le verbe « être » pour parler de Dieu. Je ne dis jamais « Dieu est », parce que finalement, Dieu est toujours au-delà de ce qu'on peut en connaître ou en concevoir. Je n'emploie pas des verbes d'action. Dieu fait ceci, Dieu fait cela, mais jamais Dieu est. Il n'y a pas d'attributs qui conviennent pour Dieu. Il est au-delà de tout.
Vous êtes exégète, ça veut dire que vous étudiez, vous travaillez, vous décodez les textes, l'évangile, vous les passez à la loupe depuis des années, Michel Quesnel. Est-ce que ça veut dire aussi que ce travail a quelque chose de vain et qu'il faut tout simplement regarder comment Jésus se comporte avec les personnes qu'il rencontre?
On n'a jamais fini de travailler la Bible. Même si j'ai une longue histoire avec la Bible, chaque fois on découvre des choses nouvelles quand on approche les textes de près. J'ai l'avantage effectivement de bien connaître le grec et donc d'utiliser les termes grecs que je ne mets pas dans mon livre.
Votre livre est en français.
Mon livre est en français, absolument. Et il m'arrive de citer les termes grecs, mais j'explique automatiquement après ce qu'ils veulent dire. Il me semble effectivement que retravailler les textes, on n'a jamais fini d'interpréter la Bible. C'est la richesse de ce livre-là. Ça ne se réduit pas à des affirmations sur Dieu. C'est quelque chose qui rapporte une histoire entre Dieu et le monde créé. Et finalement, cette histoire-là, elle est toujours à écrire et à réécrire.
Alors, puisqu'on parle de rencontres, eh bien, disons que c'est le fil rouge de votre livre, Michel Quesnel. Vous avez choisi de présenter Jésus à travers les rencontres, les liens qu'il tisse, tels qu'ils nous sont relatés dans les textes d'Évangile, et à travers ça, de nous montrer un visage de Dieu, le visage de Jésus. On peut dire les choses comme ça ?
J'ai presque envie de dire les au pluriel.
Les visages de Dieu.
Oui, les visages de Dieu, parce que si on le réduit à un seul, on a l'impression de posséder quelque chose. Et alors effectivement, les différentes rencontres que Jésus peut avoir avec des personnes différentes, finalement, font scintiller la relation que Dieu entretient avec les personnes. Et donc, il y a des quantités d'aspects, et je pense qu'il est important de souligner la diversité des aspects, oui.
Alors, les premières rencontres, ce sont celles qu'il fait, en tout cas dans votre livre, avec les disciples, avec ceux qui vont devenir ses disciples. Il les appelle, il quitte tout pour le suivre. C'est un gourou, Jésus ?
Je ne pense pas.
Je
ne pense pas. Je pense effectivement que le Jésus qui appelle est celui qui nous montre aussi que Dieu appelle. C'est-à-dire que finalement, Jésus à des rencontres extrêmement fortes, mais en même temps très libres avec les personnes. Le premier texte que je commente, vous savez que dans mon livre, il y a 16 rencontres, 2 fois 8, et j'en ai pris 4 par évangile d'ailleurs. Donc la toute première que je raconte, c'est effectivement l'appel des premiers disciples dans l'évangile de Jean. Ce sont les disciples qui posent une question à Jésus, et Jésus leur dit, il leur demande effectivement « Où demeures-tu ?» Et Jésus répond, venez et voyez et vous verrez. C'est-à-dire, il ne va pas les conduire quelque part en leur disant, c'est là, leur montrer l'ensemble et en leur disant ce qu'il faut croire. Il les invite à voir et à se faire leur propre opinion.
À vivre une expérience.
Absolument. Et dans une vraie liberté. Parce que finalement, ils vont venir voir. Si ça ne leur plaît pas, ils pourront partir. Il n'y a absolument rien d'obligatoire dans le fait de se mettre à la suite de Jésus. Et je pense que cette liberté-là est fondamentale. D'ailleurs, le titre du chapitre dans lequel je parle de cet épisode, c'est « Dieu nous appelle à la liberté ».
La liberté. Mmh.
Je crois vraiment à cette liberté-là. On a quelquefois l'impression qu'un Dieu tout-puissant nous rendrait esclaves d'une façon ou d'une autre. Nous ne sommes pas esclaves, et Dieu n'est pas tout-puissant au sens où nous entendons, nous, la toute-puissance.
Rien n'est écrit.
Absolument.
De nos destins, de nos vies, de nos parcours. C'est nous qui les inventons, enfin, qui en faisons ce qu'on peut, ce qu'on veut.
Dieu nous fait confiance. Dieu nous fait confiance. Nous sommes des créatures libres. Et finalement, il fait appel à cette confiance-là, qui est fondée par une expérience, justement, de rencontre et de communion. Je peux mettre un mot un peu fort, mais je pense quelque chose de tordre là, oui.
Alors, il leur confie une mission à ses disciples.
Oui.
Ils ne sont pas juste invités à être spectateurs ou à avoir un personnage sympathique et éventuellement un lieu sympathique. L'expérience dont on parle, là, c'est l'expérience de toute une vie, non seulement qui va changer la leur, mais celle de l'histoire de l'humanité.
Ah ben, il les envoie aussi. Il les envoie, il les appelle apôtres. Apôtre, le mot grec apostolos, ça veut dire envoyer. Et de préférence, envoyer au loin. Jésus, bon, c'est beaucoup déplacé, il n'a pas pu aller partout. Et donc finalement, dans toute la terre juive, et même quelquefois un peu en dehors de la terre juive, Jésus a fait connaître son message par justement la prédication et l'engagement des gens qu'il a recrutés, si j'ose dire, comme disciples, mais un recrutement qui n'a rien de contraignant. Hein. Et alors il les envoie, ce qui est ça qui est très intéressant, il les envoie dans un total désintéressement. Il faut qu'ils aient le minimum d'équipement. Il faut que le message soit incarné dans leur personne. C'est pas en ayant des quantités de ressources à sa disposition que l'on est vraiment témoin de l'Évangile. Ils envoient avec un minimum de vêtements. Ils les envoient en leur demandant d'accepter l'hospitalité des gens chez qui ils arrivent. Parce que non seulement, quand on communique quelque chose, la communication ne se fait pas à sens unique.
Est-ce qu'ils ont obligation de résultat?
Les obligation de
résultat?
Ah, pas du tout.
Quand ils les envoient en mission?
Ben, écoutez, ben, vous savez, ces résultats, lui, n'ont pas été terribles non plus. Donc, il est chargé d'une mission, mais il n'y a pas d'obligation d'aucune sorte. Et si ça ne réussit pas, ça ne réussit pas. D'ailleurs, il leur dit, si jamais vous n'êtes pas accueillis, repartez de là. Et même, alors le geste est un peu symbolique, en secouant la poussière de vos pieds, c'est-à-dire toute votre merde, excusez-moi l'expression, on vous la laisse, ce qu'on vous dit ne vous intéresse pas, donc eh ben, restez de votre côté, et puis c'est tout. Et vous verrez si plus tard, le message que nous vous proposons, si ce message vous intéresse. Mais il n'y a pas de contrainte non plus.
Il n'y a qu'une proposition.
Absolument.
Michel Quesnel, nous poursuivons la découverte de votre livre paru aux éditions des Clés de Brouwer, un livre que vous avez intitulé « Connaître Dieu à travers Jésus, une initiation au christianisme ». Tout un programme donc qui passe par l'évocation de rencontres que Jésus fait tout au long de sa vie publique. On a parlé des disciples, des apôtres, de la manière dont il les rencontre et dont il les envoie. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur des rencontres, disons, un peu improbables. On dirait que par moments, Jésus prend un peu un malin plaisir à aller vers ceux vers qui il ne faut pas aller selon la loi juive et selon les codes de l'époque et de la société dans laquelle il est.
Alors effectivement, au niveau des rencontres que j'étudie, il y a l'appel de Matthieu et puis un repas, ensuite dans une maison qui est sans doute la maison de Matthieu. Et voilà donc que Matthieu n'est pas n'importe qui. Matthieu est un publicain ou un collecteur d'impôts, c'est-à-dire c'est un homme au service des Romains qui collectait les finances des citoyens de la terre juive pour l'Empire romain. Donc il était en collision totale avec l'occupant. Évidemment, il était sans cesse en situation d'impureté, puisque fréquenter des païens de façon aussi constante, c'était une impureté permanente. Et en plus de cela, comme la puissance en question était une puissance occupante, donc qui faisait du tort à la liberté des Juifs.
Il était considéré comme un traître?
Absolument. Alors non seulement Jésus va appeler ce bonhomme, qui d'ailleurs répond très vite, il lui dit « suis-moi » et l'homme le suit. Mais alors après, il y a un repas, c'est sans doute chez Matthieu que ça se passe. Matthieu a invité autour de Jésus ses collègues. Donc voilà que Jésus va se trouver d'un seul coup avec ses disciples, les quelques premiers qu'il a recueillis avant Matthieu. Il va se trouver chez ce bonhomme, évidemment. Les bien-pensants du côté juif vont lui faire le reproche. Alors, ils vont s'adresser soit à lui, soit à ses disciples. Enfin, comment cet homme mange avec les publicains et les pécheurs? C'est insupportable. Et alors, c'est tout à fait intéressant parce que, d'abord, Jésus rappelle que ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Et il déplace la question. Les pharisiens qui interrogent disent « il manque avec les publicains et les pécheurs ». Il les catégorise avec des articles définis. Et Jésus
répond,
il les enferme, voilà. Et Jésus répond, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Il ne classe pas les gens en catégories. Et ça, c'est fondamental. On a tous tendance à classer les gens, c'est tellement simple. Hein. Celui-là, c'est un menteur, celui-là, c'est un voleur, etc., etc. Jésus refuse ce type de classement. Donc, Matthieu a beau être un collaborateur de la puissance romaine, Jésus se laisse inviter par lui, montrant par là qu'effectivement, il se fait proche des personnes qui sont dans la difficulté, y compris des personnes qui, d'une certaine façon, sont très peu en accord avec la foi juive.
Et puis, il y a un autre moment très frappant, parce que cette fois, il concerne une femme accusée d'adultère, prête à être lapidée par des messieurs bien comme il faut. Jésus est là et va complètement bouleverser le cours des choses.
Alors, il est très habile, hein, il réagit avec énormément d'habileté vis-à-vis de tout le monde, et vis-à-vis des accusateurs, et vis-à-vis de la femme. On accuse cette femme d'avoir été surprise en flagrant délit d'adultère. On ne sait pas ce que devient le bonhomme, d'ailleurs, hein, parce que normalement, le bonhomme aurait dû être lapidé lui aussi.
Mais il n'en est pas question, là, dans ce
apparemment,
texte.
Apparemment, il a disparu. Et Jésus a besoin de temps pour réfléchir. Et il se met à baisser la tête et à écrire avec son doigt sur le sol. On dit d'ailleurs que c'est la seule chose que Jésus ait jamais écrite. On ne sait pas s'il a fait des dessins, des signes, quelque chose comme ça. S'il refusait la lapidation, il serait à ce moment-là ennemi de la loi juive, mauvais pratiquant, et il se ferait accuser fortement. Alors il est plein d'astuces, parce que finalement, après avoir réfléchi, il dit, celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Alors ils sont coincés. Ils sont coincés, et en particulier, ceux qui sont le plus lucides sur leurs conditions de pécheurs, ce sont les plus âgés. Donc eux partent en premier.
Pour les présenter, ces deux rencontres, celle avec le publicain et celle avec la femme adultère, vous dites « Dieu fait d'abord miséricorde ».
Alors il fait miséricorde, effectivement, et en plus de ça, après à la femme, parce que Jésus va se retrouver seul avec la femme ensuite. Alors quoi faire? Et là encore, il est remarquable, parce qu'il dit à la femme « Personne ne t'a condamné ?» Elle répond « Non, personne, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. » C'est-à-dire qu'il permet à cette femme, au lieu de la coincer dans sa condition de pécheresse, il lui fait confiance en sachant qu'elle est capable de se convertir. Et finalement, ce qui lui est arrivé, d'avoir commis l'adultère, ce qui lui est arrivé, finalement, Jésus pense qu'elle est capable de se changer. Et ça, c'est merveilleux, parce que faire miséricorde, c'est cela. C'est penser qu'on peut pardonner parce que les gens peuvent tirer un bien supérieur d'un pardon reçu.
Michel Quesnel, on vient de le voir, Jésus rouvre un horizon ou ouvre un horizon à ceux et celles dont on pourrait penser qu'ils sont enfermés dans une situation, dans un état, avec donc le publicain et la femme adultère, on vient de le voir. Mais il a aussi des rencontres étonnantes, celles dont on va parler maintenant. Tout d'abord avec deux femmes qui sont sœurs, Marthe et Marie. Et au cours de cette rencontre, il se passe quelque chose alors qui peut faire sourire, qui fait souvent sourire, mais qui est riche d'enseignements, comme toujours, évidemment.
C'est une très jolie scène. Ça se passe à Béthanie, à proximité de Jérusalem. Ce sont des amis de Jésus. Ils se trouvent chez les deux femmes. Alors, elles ne réagissent pas de la même façon. Marie manifeste son attachement à Jésus en écoutant ce qu'il dit. Marthe manifeste son attachement à Jésus, en se dépensant dans tous les sens pour que le repas soit bon, la nourriture soit bien servie, que Jésus soit bien soigné, etc. Donc chacune fait ce qu'elle peut avec son tempérament.
Mais Marthe râle.
Alors Marthe, elle s'adresse à Jésus de façon totalement déplacée, puisqu'elle donne des ordres à son invité. « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé seule à servir. Dis-lui donc de m'aider. » Alors elle est très impolie. Jésus ne va pas la rembarrer. Il va comme la remettre à sa place gentiment. Tu te fais du souci, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Et alors après, il y a une phrase superbe qui est en général très mal traduite. Marie a choisi la bonne part. On traduit souvent par la meilleure part. Je suis désolé, le comparatif n'est pas dans le texte. Jésus ne compare pas les gens. Marthe, tu fais selon ton tempérament pour me faire plaisir. Marie fait son tempérament. Fait selon son tempérament pour recevoir ce que je suis en mesure de lui donner. Les deux sont bonnes. La part de Marie n'est pas mauvaise, mais la tienne non plus, Marthe. Et quand on a introduit un comparatif, on a fait de Marthe les dames qui doivent être au service et au torchon et à la cuisine, alors que les contemplatives seraient mieux. Mais c'est complètement idiot. C'est fausser complètement le sens du texte. Les deux femmes ont des égards pour Jésus, même si Marthe se comporte mal en étant impolie avec son invité. Mais il est bien de faire comme Marthe et il est bien de faire comme Marie.
Jésus ne juge pas.
Il ne compare pas, il ne juge pas, absolument.
Hein. Encore une fois, il n'enferme personne dans des catégories.
Tout à fait.
Ni même la Samaritaine. C'est un des moments les plus connus, les plus commentés des évangiles. Cette femme qui vient chercher de l'eau au puits alors qu'il fait très chaud et qu'aucune autre n'est là. Elles sont toutes à l'abri du soleil. Elle vient au moment où le soleil est le plus haut, le moment où le soleil est au zénith. Pourquoi ?
Alors, on découvre dans la suite du récit, pas dans les premières lignes, mais dans la suite, que cette femme, finalement, a une vie sentimentale et sexuelle totalement perturbée. Elle a eu plein de maris et elle est maintenant avec un bonhomme qui n'est pas son mari. Conclusion, elle est une paria chez les gens de son village. Alors que d'habitude, pour aller chercher de l'eau au puits, vous savez que dans l'Antiquité, on ne verrait presque jamais un homme porter une cruche d'eau. C'est une tâche féminine. Mais les femmes y allaient en général ensemble. Comme c'est une paria, elle vient seule. Et Jésus s'adresse à elle en lui disant « Donne-moi à boire ». C'est une demande, c'est pas un ordre. Alors elle est tout à fait étonnée parce que lui est juif, elle est samaritaine, et entre juifs et les samaritains, les relations sont très mauvaises. Mais alors ce qui est merveilleux, c'est que progressivement, Jésus conduit cette femme qui, au départ, reçoit une demande de la part de Jésus à être elle-même une demandeuse. Jésus annonce qu'il va procurer aux gens qu'il va rencontrer une eau vivante. Eh bien, dit, oh ben, alors si tu me donnes de l'eau vivante, j'aurais pu venir ici pour puiser. Et Seigneur, donne-moi cette eau-là. Alors Jésus, effectivement, lui dit effectivement que cette eau-là, il est en mesure de la lui procurer. Et il finit par lui dire, alors qu'elle lui pose la question, on dit que le Messie doit venir. Il finit par dire à une femme qu'il est le Messie. Et jamais il ne dira cela à des Juifs.
Elle le comprend ?
Parce que les Samaritains attendaient aussi un sauveur, qu'on appelle le Taïb en samaritain.
Donc ça n'est pas aux Juifs qu'il le révèle, alors, mais à une Samaritaine.
Bah absolument, parce que si vous voulez, s'il le révélait à des Juifs, aussitôt on penserait qu'il est un libérateur guerrier.
Politique.
Et qui ficherait les Romains dehors. Alors il a une toute autre conscience de sa mission, il est venu apporter tout à fait autre chose. Donc il accepte d'avouer à une Samaritaine qu'il est le Messie, et le dire lui-même, je le suis, moi, alors que chez les Juifs, ce sont eux qui vont être conduits à découvrir qu'il est le Messie, mais il ne le dira jamais.
Qu'est-ce que ça nous dit de Jésus et de Dieu, cette scène ?
Cette scène, ça me dit d'abord que Jésus est tout à fait prêt à parler avec une femme, à parler avec une femme pécheresse, à parler avec une femme étrangère, et finalement que la relation qui se construit au cours d'une conversation peut aider les gens à bouger. Lui-même bouge, puisqu'au début il est demandeur et après il est offrant, et elle-même bouge, parce qu'au début elle est celle à qui on demande, évidemment elle devient demandeuse. Et je trouve que c'est merveilleux que dans une conversation relativement brève, qui dure sans doute quelques quarts d'heure, les deux personnages puissent être conduits à se convertir l'un par l'autre. Jésus se laisse changer par cette femme et il est conduit aussi à la changer elle-même.
Michel Quesnel, je rappelle que vous êtes prêtre de l'oratoire, exégète, que vous êtes un spécialiste du Nouveau Testament. Nous parcourons avec vous le livre que vous publiez aux éditions des Clés de Brouwer, « Connaître Dieu à travers Jésus ». Alors vous guidez le lecteur dans cet ouvrage en lui donnant quelques repères, à savoir que les quatre rencontres qu'on a précédemment évoquées, ce sont des rencontres au cours desquelles Jésus aide à se manifester comme étant le Messie, même s'il ne le dit pas toujours de manière explicite. Dans les rencontres qui suivent, il se présente sous un autre jour, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a beau être fils de Dieu, bah, qui peut être un peu surpris, un peu désarçonné parfois dans les rencontres qu'il est amené à faire. En gros, il ne maîtrise pas tout, Jésus. Qu'est-ce que ça nous dit du Dieu des chrétiens et de la foi chrétienne ?
Ben je pense effectivement que dans les deux rencontres que j'étudie après, finalement, on se rend compte que Jésus est face à des demandes qu'il peut refuser éventuellement, parce que finalement, il les considère comme non conformes à sa mission. La première que j'évoque, c'est une rencontre avec une Cananéenne, donc on est en dehors de la terre juive. Et voilà une femme, effectivement, qui se présente à lui en lui demandant d'exorciser sa fille, qui est, alors, le texte dit possédé par un démon. Vous savez que dans l'Antiquité, on considérait toutes les maladies de type psychique, psychologique, etc., etc., ou mentale, comme des possessions démoniaques. Elle demande cela, et Jésus refuse. C'est tout à fait étonnant.
Elle le demande d'ailleurs d'une manière très insistante.
Absolument.
Agaçante.
Prends pitié de moi, Seigneur. Ma fille est cruellement possédée par un démon. Et il s'adresse à lui, Seigneur, fils de David. Elle sait qu'il est juif et elle utilise des mots qui peuvent parler à un juif. Jésus commence par ne rien répondre. Ensuite, ses disciples lui disent, bah, écoute, renvoie-la, elle nous casse les pieds. Et il répond, je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire que je m'adresse à des juifs et je ne suis pas là pour le service des gens qui n'ont rien de juif. Alors, cette femme est tout à fait étonnée, mais elle est très tenace en même temps.
Elle a le sens de la répartie, en plus.
Absolument. Parce qu'il a cette phrase extrêmement dure. Il ne faut pas jeter le pain des enfants aux chiots. Elle se fait traiter de chienne. Or, on sait que les chiens, dans l'Antiquité, juive, c'est pas des petits chiens, c'est mes mères. C'est des bêtes qu'on méprise plus ou moins. Alors, elle se fait traiter de chienne. Et à cette réponse absolument superbe, oui Seigneur, mais les chiots sous la table mangent les miettes qui tombent de la table des maîtres. Elle accepte de ne manger que les miettes. Alors Jésus est absolument subjugué. L'humilité de cette femme, sa ténacité, etc., le conduit à changer d'avis. C'est la scène majeure des évangiles où on voit Jésus conduit à être changé d'avis par une femme. Et par quelqu'un d'autre. D'habitude, c'est lui qui a la maîtrise des choses. Et là, il n'a pas la maîtrise. C'est elle qui a la maîtrise. Et c'est merveilleux.
Elle l'enseigne ?
Alors écoutez, effectivement, elle lui donne une bonne leçon. Donc, c'est-à-dire que finalement, Jésus est un humain, il ne faut jamais oublier ça. Alors, en refusant, il ne commet pas un péché, je ne dirais pas que Jésus est pécheur, mais sa mission, il la conçoit comme s'adressant à des juifs. Et il n'y a aucune raison, de son point de vue, momentanément au moins, que ça concerne des gens qui ne sont pas juifs.
C'est ça, momentanément, parce que ça pourrait être contradictoire avec la rencontre de la Samaritaine.
Absolument. Il y a d'autres moments où on verra Jésus en relation avec des non-juifs. Et en particulier, une autre rencontre qui est tout à fait intéressante, avec un centurion romain. Alors là, c'est pas une rencontre.
Qu'est-ce qui se passe là ?
L'homme n'a jamais rencontré Jésus. Il apprend que Jésus passe par là. Il a un jeune esclave, un jeune domestique juif qui est malade et qui est proche de la mort. Il envoie des émissaires pour demander à Jésus de guérir son esclave. Jésus est d'accord, il va s'y rendre. Et puis, à un moment où il approche de la maison du centurion, le centurion c'est donc un Romain, c'est un païen, comme la Cananéenne d'avant. Au moment où il approche, le centurion envoie d'autres personnes, de ses amis, en disant « Non, non, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, parce que pour un juif, entrer dans la maison d'un païen, c'était contracter une impureté. » Donc, je ne veux pas que tu deviennes impur par le service que tu vas me rendre. Mais, alors cet homme a une remarque admirable, dit seulement une parole et mon serviteur sera guéri. C'est-à-dire qu'il a conscience, cet homme, que Jésus peut guérir à distance. Alors, Jésus est absolument subjugué aussi par la foi de cet homme, par la confiance de cet homme. Et il avoue, je n'ai jamais rencontré une telle foi en Israël. Et évidemment, bien sûr, le serviteur est guéri alors même.
C'est quand même extraordinaire ces textes, parce qu'on voit un Jésus, fils de Dieu, qui se laisse édifier par des personnes dont on pourrait penser qu'elles n'ont rien d'édifiant. Ça, c'est les deux premières rencontres qu'on évoque dans cet entretien. Et on va voir maintenant, à travers deux autres rencontres, que finalement, il est ouvert tout le temps et pour tous. Il est venu pour tous.
Et en particulier, il est nettement plus ouvert que ses disciples proches. Parce que la rencontre avec Bartimée, qui est tout à fait intéressante, qui se passe à Jéricho. Jéricho est une ville dans la vallée du Jourdain, très proche de la mer Morte. Jésus est passé par là pour se rendre à Jérusalem. On évoque qu'on évitait dans l'ensemble. Enfin, on traversait pas facilement la Samarie. La Samarie était un pays hostile aux Juifs. Donc, pour aller de Galilée à Jérusalem, souvent les Juifs passaient par la vallée du Jourdain. Et donc là, Jésus passe par là, arrive à Jéricho, et un mendiant aveugle, dont on donne le nom, qui s'appelle Bartimée, un mendiant aveugle lui demande d'être guéri. Les disciples ont un très mauvais rôle, ils veulent le faire taire. Jésus, au contraire, fait appeler le bonhomme et lui demande ce qu'il désire. C'est assez intéressant. Un mendiant aveugle qui s'adresse à Jésus, Jésus ne guérit pas systématiquement, il va à la quête du désir de cet homme.
Il l'oblige à formuler sa demande.
Absolument, absolument. Et alors, le mendiant en question, Bartimée, avoue effectivement que ce qu'il demande, c'est la vue. Et alors, il y a un passage absolument merveilleux, c'est que lorsque Jésus appelle Bartimée, Bartimée se lève et va vers Jésus, et l'évangéliste précise en laissant son manteau. Car un mendiant aveugle à cette époque-là, sa seule richesse, c'était son manteau, l'étoffe épaisse dans laquelle il pouvait s'envelopper pour passer la nuit. Parce que bien sûr, un bonhomme comme ça était mendiant en permanence et vivait dehors.
Et très, très vulnérable.
Donc, absolument. Donc il laisse tout ce qu'il possède. D'ailleurs, il y a un très beau passage dans l'Ancien Testament où il est recommandé, quand on prend en gage le manteau de quelqu'un, de lui rendre avant le coucher du soleil parce que c'est sa seule protection pour la nuit. Donc c'est le seul bien de ce monsieur. Il va vers Jésus en jetant son manteau. Jésus le guérit et on nous dit après que Bartimée suit Jésus sur le chemin. Suivre, c'est le mot que les évangélistes utilisent pour dire qu'il devient disciple. C'est-à-dire que voilà ce bonhomme qui, tout d'un coup, alors qu'il était un mendiant aveugle, ayant tout quitté comme les premiers disciples, devient à son tour un disciple. Je ne dirais pas qu'il y a un 13e apôtre quand il entre à Jérusalem, mais quelque chose un peu de cet ordre-là quand même. Oui.
Il y a une autre rencontre qui montre à quel point Jésus est là pour tous et se laisse interpeller par tous. C'est Zachée, le fameux Zachée, un homme de petite taille.
Oui, oui. Alors, on est aussi à Jéricho, d'ailleurs. C'est assez amusant. Ça ne se passe pas chez le même évangéliste. Le précédent, c'est chez Marc. Zachée, c'est chez Luc. Zachée a envie de voir. C'est un publicain, mais qui avait des plus grandes responsabilités, je pense, que Matthieu.
Rappelons qu'un publicain, c'est un collecteur d'impôts.
Voilà, c'est un collecteur d'impôts au service de l'occupant romain. Zachée, c'est un patron. Donc, lui, il n'était pas directement abordable par les gens. En plus, ça, c'est un chef de publicain. C'est-à-dire que non seulement il est au service des Romains, mais il a accepté des grades venant des Romains. Donc, c'est un paria, totalement. Alors, il a envie de voir. Alors, comme il est petit, effectivement, il fait quelque chose qui n'est pas très, comment dire, recommandé pour un chef, pour un patron. Il grimpe sur un arbre, sur un sycomore, on nous précise, pour voir Jésus. Et alors Jésus, on ne sait pas du tout comment il a été informé de cela. Il connaît le bonhomme par son nom, parce que finalement, si Zachée est le chef des publicains de Jéricho, son nom est public. Jésus l'appelle par son nom, Zachée, descends vite de ton arbre, car aujourd'hui je veux demeurer chez toi. C'est-à-dire que Jésus s'invite chez quelqu'un qui est infiniment peu recommandable.
Au vu et au su de tous, il l'interpelle devant tout le monde.
Absolument, en public. En public, c'est-à-dire que finalement, s'adressant à cet homme-là et s'invitant chez lui, Jésus effectivement réhabilite totalement ce bonhomme, alors qu'il a fait très peu de choses jusqu'à ce moment-là, puisqu'il n'a fait que grimper sur un arbre pour voir Jésus.
Par curiosité peut-être, tout simplement.
Oui, absolument. On ne dit pas du tout pourquoi, mais ça ne l'engage pas beaucoup.
Ouais.
Alors voilà, après, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la nuit que Jésus a passé chez Zachée, mais toujours est-il que après cette rencontre, Zachée est prêt à tout changer. Il est prêt à donner aux pauvres toute une partie de ses biens. Il est prêt à rembourser les torts qu'il a faits. Et voilà cet homme qui est complètement transformé. Alors, il ne va pas, lui, à la différence de Bartimée, il ne va pas suivre Jésus. Mais il va être totalement transformé et une générosité entière, alors qu'on sait très bien que les publicains, surtout les chefs de publicains en général, en mettaient pas mal dans leur poche avant de verser l'argent aux Romains. Donc voilà que cet homme, finalement, est devenu totalement autre, avec simplement une rencontre d'une nuit qui a été précédée par un moment de curiosité un peu élémentaire. Et finalement, Jésus transforme cette curiosité un peu gratuite en une rencontre extrêmement féconde, puisque l'homme est complètement transformé quand Jésus a passé la nuit chez lui.
Michel Quesnel, les rencontres que nous allons évoquer maintenant sont celles que Jésus fait au moment de la Passion ou juste avant la Passion. Ça commence par le lavement des pieds et on va évoquer jusqu'au bon larron, ce fameux voleur qui est crucifié à côté de Jésus. Il y a le bon et le mauvais larron. Ça, ce sont des scènes et des moments évidemment absolument centraux dans le parcours de Jésus, puisqu'il précède sa mort.
Le lavement des pieds, c'est une scène fantastique, si j'ose dire, qui n'est racontée que par l'évangéliste Jean, d'ailleurs, hein, au chapitre 13 de Jean, au cours d'un repas, qui est un repas qui précède d'un jour, peut-être, la fête de la Pâque. Jésus va donner ses dernières instructions à ses disciples, parce qu'il sait maintenant que sa mort est proche, qui va être crucifié, puisque un homme du peuple comme Jésus était, quand il était massacré par les Romains, ça se passait comme ça, par le crucifiement. Et alors ce repas dans lequel Jésus va livrer toutes ses dernières consignes, si j'ose dire, commence par un geste totalement étonnant, puisqu'ils sont à table, ils sont sans doute allongés sur des divans, comme on mangeait dans les repas solennels à l'époque. Et lorsque on entrait chez quelqu'un pour un repas, il était habituel que un serviteur ou plutôt une servante de la maison vienne laver les pieds des convives pour qu'ils soient dans des conditions confortables pour le repas. Il n'y avait pas de chaussettes à l'époque. Soit on marchait pieds nus, soit on marchait dans des sandales. Et quand on arrivait chez quelqu'un, on avait les pieds pleins de poussière. Donc le lavement des pieds fait partie des gestes d'hospitalité élémentaire. Et voilà que Jésus, qui préside le repas, qui va être donc le repas au cours duquel il va livrer ses dernières consignes, commence par un geste qui n'a rien à voir avec son autorité de maître. Il va laver les pieds aux autres. Donc il se transforme en une jeune esclave ou une jeune gamine. Ce qui est tout à fait étonnant. Alors évidemment, les gens refusent, à commencer par Pierre. Non, tu ne me lavais pas les pieds, jamais, pas question. C'est normal. Pierre est celui qui a reconnu en Jésus le Messie à un moment clé de déroulement des évangiles. Et voilà que maintenant, celui-là va laver les pieds à ses disciples.
Il n'y comprend plus rien.
Et absolument. Alors Jésus a une phrase assez fantastique. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. C'est-à-dire que finalement, si tu n'acceptes pas que je sois à ton service, il y a quelque chose entre toi et moi qui va être rompu. Pierre s'en étonne tout à fait, au point d'ailleurs qu'il va dire à ce moment-là, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Puisque tu as envie de te mettre à mon service, je suis totalement impur moi-même, donc j'ai besoin d'être entièrement purifié. Et Jésus va tirer de là le fait que dans la communauté chrétienne, l'autorité n'est pas une autorité de patron, c'est une autorité de serviteur. Et un peu plus tard, quand on verra effectivement des disciples comme Jacques et Jean vouloir occuper des bonnes places dans le royaume de Dieu, Jésus les rembarrera.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il leur exprimera que se comporter dans l'Église, quand on a des responsabilités dans l'Église, se comporter comme un patron, comme un chef, comme un roi, comme un général,
un prince,
ce n'est pas du tout ce dont l'Église a besoin.
Parce que Jacques et Jean se disputent pour savoir lequel sera le mieux placé auprès de Jésus.
Absolument. Et je pense, alors là, il y a une vraie question d'ailleurs, ça nous interroge fondamentalement dans nos façons de nous comporter en Église. Quand dans l'Église catholique, on appelle un évêque Monseigneur, je suis désolé, je trouve que ce terme est totalement inadapté. Un évêque n'est pas un seigneur, un évêque est un serviteur des brebis qui sont dans son diocèse.
Mais certains tiennent beaucoup à ce titre.
J'en sais rien. Je sais qu'il y a des gens qui l'emploient parmi les fidèles. Je crois qu'il y a de moins en moins d'évêques qui sont attachés à ce titre-là. Parce qu'ils sont suffisamment nourris d'évangile pour savoir que c'est pas comme ça que l'autorité s'exerce dans l'Église. C'est d'abord une autorité de service. Ça, c'est très fondamental. Et Jésus le manifeste, justement, par ce geste du lavement des pieds. Et alors après, non seulement lui a lavé les pieds à ses disciples, et il commente en disant, si moi j'ai fait comme cela, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. C'est-à-dire que finalement, le service que Jésus rend, c'est un modèle pour les services que nous devons nous rendre les uns aux autres. Et si dans l'Église, nous ne sommes pas les uns au service des autres, même quand on n'a pas de grosses responsabilités, eh bien, si on n'est pas au service les uns des autres, il y a quelque chose qui cloche. Et quand dans des communautés chrétiennes, les gens sont dans la bagarre et non pas dans le service mutuel, il y a un contre-témoignage fantastique. Je crois vraiment que là, Jésus met en cause tout ce qui est de l'ordre du contre-témoignage.
Il y a une autre scène extraordinaire, Michel Quesnel, dans les évangiles, il y en a beaucoup, hein, mais là c'est une scène qui nous est relatée dans le chapitre 23 de l'évangile de Luc. Ça concerne un homme, un des deux hommes qui est crucifié de part et d'autre de Jésus.
Effectivement, c'est une scène qui est propre à Luc. Les autres évangiles disent bien que Jésus a été crucifié entre deux malfaiteurs. Donc il y a trois personnes qui sont crucifiées en même temps. Mais dans l'évangile de Luc, il y a les larrons, les voleurs qui sont crucifiés en même temps que lui, prennent la parole. Il y en a un qui lui dit « Mais si tu es le Messie, sauve-toi et sauve-nous avec !» Donc finalement, c'est une tentation que Jésus fasse usage de son pouvoir pour finalement les rendre à la vie. Une vie qui n'est pas une vie brillante, puisque sont des voleurs l'un et l'autre.
Ça rappelle les tentations au désert.
Voilà, tout à fait.
Sauve-toi toi-même.
C'est tout à fait le même genre de tentation. Il joue le rôle que jouait le démon dans les tentations au désert. Alors, cet homme donc, qui dit à Jésus, sauve-toi toi-même et nous avec, est réprimandé par l'autre larron, l'autre voleur, qui est de l'autre côté de Jésus. Il fait des reproches au premier, en lui disant, nous avons nous ce que nous méritons, mais toi, Jésus, c'est une autre situation. Lui n'a rien fait de mal. Il a conscience que finalement, le crucifixion de Jésus est un assassinat politique d'un homme qui n'a rien fait de mal, alors qu'eux, au contraire, sont des bandits.
C'est une injustice.
Une injustice flagrante.
Énorme.
Alors, il fait des reproches au premier, et il s'adresse à Jésus en disant, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Souviens-toi de moi. Nous sommes crucifiés en même temps que toi, tu fais attention à nous, et donc je te demande effectivement quelque chose qui est de l'ordre du pardon pour ce que j'ai fait, et qui est de l'ordre de la proximité avec toi. Nous sommes proches l'un de l'autre sur la croix, mais j'espère que nous serons proches autrement, et que ce ne sera pas moi le patron, au contraire ce sera toi, ton royaume. Tu seras le roi, moi je serai un de tes sujets, considère-moi comme un de tes loyaux sujets. Alors Jésus a cette formule fantastique. Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Aujourd'hui. C'est-à-dire que Jésus a conscience que, après sa mort, il ne sera pas dans la disparition, dans le néant. Il sera toujours vivant, dans un autre monde, le paradis, où il sera lui-même. Et il dit à cet homme qu'il sera avec lui. Et à travers cela, Jésus annonce la résurrection pour lui-même et également la résurrection pour cet homme. C'est-à-dire que il y a un espoir qui s'ouvre dans l'ensemble des évangiles. Je n'ai pas traité de rencontre de Jésus ressuscité dans mon livre. Parce que finalement, quand il se manifeste ressuscité, il est déjà lui-même dans un autre monde. Mais à travers ce qu'il dit au bon larron, il annonce quand même la résurrection et on sera le témoin le dimanche de Pâques.
Alors Michel Quesnel, il y a une autre forme, un autre genre de rencontre que vous évoquez dans le livre, c'est les rencontres de Jésus avec son Père à travers la prière. Vous dites que là aussi il y a une rencontre, mais qu'est-ce qu'on peut en dire? Par définition, on ne sait pas ce que Jésus dit à son Père. Il enseigne ses disciples qui lui demandent comment on fait pour prier, ça d'accord, le Notre Père. Enfin, si ce qui se passe entre Jésus et Dieu, on en sait quelque chose?
Alors, je ne sais pas si Jésus était d'abord celui qui parle à son Père. C'est peut-être d'abord celui qui écoute. Il y a un très beau passage dans l'évangile de Marc. Après une journée un peu triomphale à Capharnaüm, où Jésus a guéri plein de monde, les gens se sont rués à sa suite, etc. Il a été la coqueluche, si j'ose dire, de la ville. La nuit suivante, Jésus a besoin de digérer cela. Et alors, en pleine nuit, il se lève, quitte la ville, va dans un endroit où il est solitaire, et là, il est en relation avec son Père. Et c'est là qu'il découvre que finalement, le succès qu'il rencontre à Capharnaüm est un succès ambigu. Parce que finalement, si on se contente d'être là où on réussit, eh bien, je pense qu'on est dupe du succès dont on est porteur. Alors, la réflexion qu'il conduit, eh bien, l'amène à changer d'avis et à dire à ses disciples qui le retrouvent après l'avoir cherché, il faut que nous partions d'ici pour que je prêche l'évangile ailleurs. Parce que d'autres villages aussi ont besoin de m'entendre. Et je pense que Jésus parlait sans doute à son Père, oui, mais il était aussi beaucoup à l'écoute de son Père. Et je pense que dans la prière, nous ne sommes pas simplement ceux qui parlons, nous sommes aussi ceux qui entendons et qui écoutons.
En tout cas, la relation se dit à travers ces temps d'écoute et d'échange, quelle qu'en soit la forme, y compris aujourd'hui encore.
Oui, moi j'emploie beaucoup le mot intimité pour la prière. Et dans une intimité, quand on est intime avec quelqu'un, finalement, la parole circule dans les deux sens. On parle et on écoute. Et il faut être autant écoutant que locuteur.
Dans la conclusion de votre livre « Connaître Dieu à travers Jésus », Michel Quesnel, vous avez cette phrase « Dieu aime les petits et les pauvres ». Est-ce qu'on pourrait considérer que c'est en quelque sorte le résumé ou un des résumés des rencontres qu'on a évoquées précédemment ? Tous ces personnages, hommes, femmes, vieux, jeunes, serviteurs, patrons, grands ou petits, ils ont quelque chose de vulnérables, de pauvres, de fragiles.
J'évoquais dans une rencontre précédente le fait que je n'utilise jamais le mot « Dieu est » avec un attribut au verbe « être ». Et je pense effectivement que j'emploie toujours des verbes d'action. Et peut-être que le verbe d'action le plus réel, si j'ose dire, ou le plus vrai, autant qu'on puisse parler de vérité quand on parle de Dieu, le plus vrai pour parler de Dieu, c'est le verbe « aimer ». C'est-à-dire que finalement, et vous savez qu'en français, le verbe aimer est archi ambigu. On aime les pommes de terre, on aime sa femme, on aime Dieu. Bon, c'est pas du tout du même ordre. Mais il y a le terme qui veut dire aimer, agapao, l'agapé en grec. Moi, j'emploie plus souvent le mot agapé que le mot amour parce que le mot amour est trop vague en français. Dieu aime d'un amour totalement désintéressé. Ce qui veut dire que il n'aime pas d'abord des gens qui sont capables de lui rendre un amour comparable à celui qu'il leur offre. Il aime aussi des gens qui sont dans des situations de manque, dans des situations de pauvreté, dans des situations d'humilité, parce qu'il sait que, effectivement, ces gens-là qui sont défavorisés dans l'existence, eh bien, ils méritent d'être aimés plus que d'autres. Quand vous avez dans vos enfants un gamin qui a un handicap quelconque, et vous lui accorderez davantage d'attention qu'à ceux qui ont en eux-mêmes ce qu'il faut pour vivre et pour survivre. Eh bien, c'est un peu la même façon, si vous voulez. Dieu sait que les personnes sont différentes, sa diversité est importante. Il y a des gens qui sont, il faut bien le dire, plus favorisés que d'autres par les talents, qu'ils ont au moins les talents au niveau humain. Et les personnes qui sont les moins favorisées, Dieu va avoir une attention très particulière pour ces gens-là.
Et puis, ce qui est étonnant dans les rencontres qu'on a évoquées, c'est l'intention de certains de ces personnages qui est très intéressé. Ils viennent voir Jésus parce qu'ils ont besoin de quelque chose.
Absolument.
Ou par curiosité, comme Zachée, qui a envie de voir qui est ce bonhomme dont il entend tant parler.
Oui, ou Jacques et Jean qui demandent les bonnes places dans le royaume. C'est-à-dire que finalement, c'est très humain, si vous voulez, de rechercher son propre avantage. Et justement, ce que révèle l'ensemble des récits évangéliques, c'est que Dieu veut vraiment, non seulement aimer les gens qui en ont le plus besoin, mais aussi inviter les personnes à s'aimer les unes les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est d'ailleurs curieux, vous savez, que quand Jésus met en avant ce que demande l'écriture juive vis-à-vis de l'autre. Bon, il dit « Écoute Israël, aime le Seigneur ton Dieu », etc. Mais il va chercher, dans un coin complètement perdu du livre du Lévitique, au chapitre 19, verset 18, un commandement qui est noyé au centre de plein de prescriptions. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Jésus est le premier à avoir mis en valeur ce commandement qui est noyé au milieu de plein d'autres. Alors à ce moment-là, effectivement, aimer son prochain comme soi-même, d'abord ça suppose de s'aimer soi-même, quel qu'on soit, et ça c'est fort important, et deuxièmement, avoir vis-à-vis de l'autre un amour totalement gratuit, comme Dieu a vis-à-vis des humains un amour totalement gratuit. Ça c'est pas si simple.
Dans les rencontres qu'on a racontées là, il y a quand même des fondamentaux de la foi chrétienne qui ne sautent pas aux yeux. Par exemple, ce qui nous fait passer de l'histoire à la foi, c'est la résurrection. Elle est suggérée à travers le récit du bon larron, mais il n'en est pas spécialement question. Donc comment le Jésus de ces rencontres nous dit quelque chose du Dieu qui nous veut vivant et vivant de manière éternelle ?
Il n'y a aucune preuve rationnelle de la résurrection. Jésus, ressuscité, est allé se montrer à des personnes qu'il avait connues. Il faut d'ailleurs tout un chemin pour qu'ils le reconnaissent, en général, en leur expliquant les Écritures, comme dans les disciples d'Emmaüs de l'Évangile de Luc, ou en leur faisant faire tout un chemin intérieur, comme dans les rencontres que Jésus a à Jérusalem avec ses disciples. Mais finalement, Jésus n'est pas allé se montrer ni à Pilate, ni aux grands prêtres, ni à personne de ce genre-là. Et le tombeau ouvert, il n'y a que quelques témoins aussi qui ont été témoins de cela. Et ce sont des femmes en général. Et vous savez que dans l'Antiquité, le témoignage des femmes n'avait pas de valeur. Conclusion, la foi n'est pas de l'ordre de la certitude. Et ça, je crois que c'est très fondamental. La foi est de l'ordre de la relation. Quand vous êtes en relation avec quelqu'un, eh bien, cette relation, elle est évolutive. Vous essayez de créer une confiance. Puis de temps en temps, la confiance, elle baisse un peu parce que vous avez des pépins. De temps en temps, elle se renforce pour différentes raisons. Et je pense qu'il est très important de mettre en avant le fait que le doute fait partie de l'attitude du croyant.
Sinon ?
Ah ben sinon, si vous voulez, c'est pas fiable, si j'ose dire. Si c'était de l'ordre de la certitude, à ce moment-là, les athées seraient les imbéciles.
Oui, puis ça veut dire que la foi, c'est verrouiller, comme dans un coffre-fort, tout ce dont on est convaincu et on n'y touche plus.
Absolument, voilà. Ce serait une sorte de capital qu'on mettrait effectivement bien à l'abri. Or, c'est évolutif. La vie est dans le mouvement. Je ne crois plus comme avant.
Et dans le risque.
Et absolument. Quand je suis entré au séminaire, il y a 60 ans ou davantage, je ne sais plus très bien, je ne croyais pas comme maintenant. Tout le travail que j'ai pu faire sur les textes bibliques m'a fait évoluer. Il m'arrive encore de me poser plein de questions. Et je pense que le jour où les questions disparaîtront, quelque chose sera... J'aime bien cette phrase, qui je ne sais plus quel est l'auteur de cet aphorisme que je vais évoquer. La réponse est le malheur de la question. Donc si vous n'avez que des réponses, il y a quelque chose de fondamental dans votre positionnement qui ne fonctionne pas.
La résurrection qui est au cœur de la foi chrétienne, Michel Quesnel, eh bien justement, relève vraiment de la foi, de l'acte de foi. La Trinité aussi, parce que ça c'est quelque chose aussi qui est au cœur de ce que les croyants chrétiens confessent, le Père, le Fils et l'Esprit.
Alors effectivement, on a pas mal parlé du Père et de la relation entre Jésus et le Père. On vient d'évoquer la résurrection et je pense qu'il faut aussi donner une place à celui qu'on n'a pas encore beaucoup nommé, hein, qui est l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit. Lorsque Jésus, tout à fait à la fin de l'évangile de Matthieu, invite ses disciples à être témoins de la foi qui est la leur, il propose aux gens de prêcher l'évangile et baptisant les personnes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est la formule trinitaire la plus claire de tout le Nouveau Testament. L'Esprit Je veux dire, le Père, c'est ce qui est en amont et en aval de nous. On en vient, on y va, on va vers lui. Le Fils, c'est le modèle qui est à côté de nous. L'Esprit, c'est Dieu en nous qui nous conduit à agir tel que Dieu souhaite que nous agissions. Aimer son prochain comme soi-même, c'est loin d'être évident. Parce que mon prochain n'est pas toujours aimable. Et moi-même, je ne suis pas toujours disposé à aimer. Mais il y a justement une force dans la personne humaine qui le conduit à aller un peu au-delà de ses propres possibilités pour donner à ses frères humains et à ses sœurs humaines un amour totalement désintéressé.
Cette force, c'est l'Esprit.
C'est l'Esprit, ça, voilà. Nous avons l'Esprit en nous et je pense que assez souvent, si vous voulez, quand nous sommes dans la difficulté, nous ne prions pas suffisamment l'Esprit Saint. Moi, je pense qu'il est bon tous les matins, c'est au moins ce que je fais, d'invoquer l'Esprit Saint pour que, dans les personnes que je rencontrerai dans la journée, je les aide à grandir par les paroles que je prononcerai, par les gestes que je ferai vis-à-vis d'elles, par les silences que je respecterai pour qu'elles puissent parler, que je puisse les écouter. Je pense que c'est l'Esprit Saint qui me donne cette force de dire les paroles qui conviennent, de faire les gestes constructifs et d'avoir une écoute positive et qui permet aux personnes justement de dire ce qu'elles ont à dire et à ce moment-là de provoquer aussi ma réaction. Et je crois, si vous voulez, que ça, c'est loin d'être évident parce que les forces que j'ai en moi sont un peu minimes et heureusement que la force de Dieu qui est en moi vient m'aider à vivre ces dispositions que je viens d'évoquer.
Les noms qu'on donne à l'Esprit-Saint sont d'ailleurs très révélateurs de ce point de vue. Ils nous donnent la force, ils nous consolent, ils nous éclairent.
Oui, c'est ça, les différents dons du Saint-Esprit. Ouais. Oui. Et je pense effectivement qu'il y a quelque chose alors qu'il y a de l'ordre. Et puis vous savez qu'en grec et en hébreu, l'Esprit, ça veut dire le souffle. C'est-à-dire que c'est finalement quelque chose qui me pousse en avant. Et je crois que c'est très important, effectivement, que j'accepte que le vent de l'Esprit m'aide à avancer dans le sens que Dieu souhaite pour moi. Et je crois que finalement, la foi chrétienne, c'est une intimité avec Dieu qui se nourrit de la résurrection de Jésus, de l'amour que le Père me porte et de l'Esprit qui est en moi et qui m'aide à aimer comme Dieu aime les humains. Oui.
Un très grand merci, Michel Quesnel, de nous avoir accompagnés dans ces réflexions. Ce livre s'adresse donc à toutes ces personnes qui sont intéressées par le Dieu des chrétiens, par la foi chrétienne, mais qui ne savent pas trop par quel bout le prendre. Moi, je vous conseille le livre de Michel Quesnel. Ça s'appelle « Connaître Dieu à travers Jésus, une initiation au christianisme ». C'est un livre qui est paru aux éditions Des Clés de Brouwer. Je rappelle, Michel Quesnel, que vous êtes prêtre de l'oratoire et que vous êtes exégète et spécialiste du Nouveau Testament. Merci encore.
Merci à vous.
Et merci à Hugo Clément qui était à la technique.